Littoraux poétique. Littoraux poétique, l'émission où la terre et la mer s'entremêlent. Partez à la rencontre d'un chercheur ou d'une chercheuse au travers d'une œuvre. Épisode 3, autour de Moby Dick avec François Léger.
Bonjour à nos auditeurs, bonjour François Léger.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la réalisation d'un nouvel épisode de notre série Les Littoraux Poétiques. Littoraux Poétiques, c'est le podcast du groupe de travail poète, post-littoralisation et transition environnementale qui fait lui-même partie du groupe de recherche Océan et Mer coordonné par le CNRS. Je suis Catherine Bohémard, socio-économiste au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Je m'entretiens aujourd'hui avec François Léger autour de l'œuvre d'Herman Melville, Moby Dick, Paris en 1851. On ne présente plus Moby Dick et pourtant, nous vous proposons aujourd'hui de porter un regard singulier sur cette œuvre. Le regard d'un chercheur pour qui ce livre tient une place bien particulière. François Léger, vous êtes agronome et docteur en écologie, enseignant-chercheur à AgroParisTech et président du conseil scientifique du Conservatoire du Littoral. Vous avez choisi Moby Dick. Avant de parler de l'œuvre, parlons un peu de vous, de votre rapport au littoral et à la mer, puisque c'est le sujet qui nous anime au sein de Poète. Un des sujets qui vous a occupé lors de votre carrière est celui des dynamiques des milieux remarquables, notamment en zone littorale. Mais avant que vous ne deveniez chercheur, entreteniez-vous un lien particulier avec les milieux littoraux et comment avez-vous tissé ce lien ?
À dire vrai, les littoraux ne faisaient pas vraiment partie de mes paysages d'enfance. Moi, j'ai été élevé en banlieue parisienne. Et mes vacances, c'était plutôt montagne, chez mes grands-parents dans les Pyrénées, et campagne. Et mes parents n'étaient pas des grands fanatiques des bords de mer. Mon début de carrière s'est pourtant déroulé près de la mer. J'ai vécu sur la côte Pacifique au Mexique, j'ai vécu à Montpellier longtemps. Et pourtant, même si je vivais près de la mer, et si j'allais au bord de mer avec mes enfants petits, mon regard a essentiellement porté plus vers la terre et vers la montagne. Et en fait, les littoraux me sont tombés dessus, en quelque sorte, en 2004, quand j'ai été sollicité pour être membre du conseil scientifique du Conservatoire du Littoral. L'idée était que j'y apporte mes compétences en matière agricole et que, autour d'une question qui était essentielle dans la stratégie du conservatoire, qui était d'arriver à concilier sur des terres agricoles que l'établissement achetait, pratiques agricoles et conservation de la nature. La conservation de la nature étant évidemment l'une des raisons d'être du Conservatoire du Littoral. Et les points particuliers sur lesquels j'avais particulièrement des compétences concernaient en fait la question de la gestion pastorale extensive des zones humides, des landes, etc., qui constituaient une bonne part du patrimoine du Conservatoire. Et en fait, c'est par le biais du Conservatoire que j'ai vraiment découvert les littoraux et que je m'y suis intéressé d'autant plus que ce qui m'a très vite frappé, c'était leur particularité d'interface. Et cette question des interfaces est un concept clé pour un écologue. Et c'est finalement en fréquentant les littoraux dans une perspective d'expertise scientifique que j'ai découvert peu à peu leur caractère spectaculaire, leur caractère sublime, et que j'ai appris à les aimer, à m'y sentir bien. Et à y trouver une forme d'intimité profonde avec des milieux, des paysages, des lieux tout à fait inspirant pour moi.
Vous êtes donc agronome. Pour les communautés de recherche dans lesquelles vous vous inscrivez, est-ce que l'idée de littoral fait sens et si oui, de quelle façon ?
Alors, les agricultures littorales ont une spécificité évidente qui tient à des conditions climatiques particulières, en particulier le fait qu'elles soient moins gélives et avec des des climats moins contrastés. Et où qu'elle s'opère dans des polders qui ont été gagnés sur la mer, qui représentent une forme extrême du processus d'artificialisation des milieux naturels qui est au cœur de l'agriculture même et qui s'est accentué dans la phase de modernisation des 70 dernières années. Pour autant, les littoraux ne constituent pas un objet d'attention particulier pour les agronomes, sauf quelques exceptions. Tout simplement parce que leur regard reste tourné vers le peuplement cultivé ou la parcelle pâturée. Et pourtant, une des particularités des littoraux, c'est justement leur dimension d'interface fluctuante, qui oblige à considérer des questions d'articulation d'échelle spatiale et temporelle de façon à penser pleinement nos objets d'agronome. Si vous prenez l'exemple des algues vertes en Bretagne, par exemple, si vous ne considérez pas ce qui se passe à l'échelle de l'ensemble des bassins versants, vous n'y arriverez pas. Et pour penser les bassins versants, ou considérer les bassins versants, il faut prendre en compte l'histoire de l'agriculture bretonne. Et cette histoire de l'agriculture bretonne, en particulier son assignation finalement relativement récente à l'élevage intensif, qui correspondait à une traduction de planificateur de ce qui était considéré comme les avantages comparatifs de cette région, pédoclimatique, socio-économique, historique, culturel. Finalement, la puissance particulière de l'objet littoral, pour moi, c'est de conduire à des problématiques scientifiques qui ne peuvent jamais se résoudre sans le croisement de points de vue disciplinaires, c'est-à-dire dans une forme d'interdisciplinarité structurée. Et cette interdisciplinarité, elle a aussi une conséquence qui est de pouvoir ou de devoir adopter non seulement les perspectives analytiques ou réductionnistes de chaque discipline sur les objets qu'elle partage, mais également, pour pouvoir les intégrer, d'avoir des postures de type systémique ou holiste. Et sans ces perspectives systémiques ou holistes, en fait, il n'y a pas de possibilité de rencontre entre disciplines. Donc finalement, le littoral est un objet qui invite, plus que beaucoup d'autres, à l'interdisciplinarité. Et cette interdisciplinarité, elle est productive en ce qu'elle permet de se déplacer, de déplacer les points de vue habituels, qu'elle oblige à une construction problématique, une définition problématique et une résolution des problématiques qui passent par l'interaction avec les autres disciplines. Le paradoxe, néanmoins, qu'on peut manifester, c'est que pour pouvoir adopter une telle perspective holiste, il faut renoncer à une posture qui ne serait que d'objectivation scientifique. Il faut, quelque part, s'emparer des objets en suscitant toutes les formes de connaissances possibles qui nous sont accessibles de ces objets, et en particulier des formes sensibles. Ce côté spectaculaire et sublime des littoraux, qu'on voit dans les peintures de littoraux ou des choses comme ça, finalement, favorise l'hybridation de ces registres de connaissances et le décentrement du chercheur, qui accepte aussi d'être un être d'émotion.
Alors justement, vous avez choisi Moby Dick, depuis le littoral allons en mer, et voici un premier extrait.
Capitaine Ahab, dit Starbuck, qui, ainsi que Stubb et Flask, n'avait cessé de regarder son supérieur avec une surprise croissante, mais qui, à la fin, parut frappé d'une idée qui expliquait tout. « Capitaine Ahab, j'ai entendu parler de Moby Dick. N'est-ce pas Moby Dick qui vous a enlevé votre jambe ?»«
Qui t'a dit ça ?» cria Ahab.
Puis, s'arrêtant. « Oui, Starbuck. Oui, vous tous, gars. C'est Moby Dick qui m'a dématé. C'est à Moby Dick que je dois ce moignon mort sur lequel je m'appuie maintenant. » « Oui, oui !» brama-t-il avec un sanglot bruyant, animal, terrible, le sanglot d'un élan frappé au cœur. « Oui, c'est cette baleine blanche maudite qui m'a dématé, qui a fait de moi pour l'éternité un pauvre terrien boitillant. » Dressant alors ses deux bras en l'air, il hurla sans mesure des imprécations. « Oui, oui, je la pourchasserai autour du Cap de Bonne-Espérance, et autour du Cap Horn, et autour du Maelstrom de Norvège, et autour des Flammes de l'Enfer, avant de renoncer à l'atteindre. Et c'est pour ça que vous vous êtes embarqués, les gars, pour chasser cette baleine blanche des deux côtés de la terre ferme et de tous les côtés du globe jusqu'à ce qu'elle rejette du sang noir par ses évents et roule sans dessus-dessous les nageoires en l'air. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Serrons-nous les mains pour cette entreprise. Êtes-vous d'accord? Vous n'avez pas l'air d'avoir froid aux yeux. Non, non, crièrent à pleine voix les harponneurs et les matelots, se serrant autour du vieil homme excité. Un œil aigu pour la baleine blanche, une lance aiguë pour Moby Dick. Dieu vous bénisse! Il semblait sangloter à demi et hurler à demi. Dieu vous bénisse, les gars. Stewart va tirer la grande mesure de grog.
Vous avez choisi ce passage de l'œuvre, qui est l'annonce par le capitaine Ahab du véritable objectif de ce voyage de 3 ans en mer, capturer une baleine blanche. Pouvez-vous nous parler un peu plus de Melville, de Moby Dick et de ce que représente ce passage pour vous?
Melville, pour moi, c'est un auteur essentiel. Enfin, j'adore son écriture, j'adore ses livres. Et Moby Dick en particulier. Et dans le passage qu'on vient de lire, il est quand même à la page 235 du livre. Et en fait, dans ce passage, le capitaine Ahab annonce que le véritable objectif du voyage du Pequod, c'est pas de chasser la baleine. C'est de chasser la baleine blanche. Pas n'importe quelle baleine, Moby Dick. Et Moby Dick, c'est Moby Dick qui lui a arraché la jambe. C'est plus l'idée de parcourir les mers pour pêcher, ramasser de l'huile et passer 3 ans en mer et revenir au port et faire fortune. C'est d'une vengeance personnelle contre un individu malfaisant qui est une baleine. Et les matelots qui l'haranguent, ils acceptent avec enthousiasme de suivre dans cette quête. Ce qui est à peu près incompréhensible, honnêtement, parce qu'eux, ils ne sont pas là pour satisfaire la vengeance personnelle d'un bonhomme. Et le seul, finalement, qui a des doutes sévères, c'est Starbuck, qui est le second. Et à la suite de ce passage, vous avez des moments où chacun des personnages est pris individuellement et se parle de ce moment étonnant où Ahab s'est déclaré, en quelque sorte. Et Starbuck, voilà ce qu'il dit. Il dit que, en fait, il s'est pas engagé pour se venger. Se venger sur une simple brute muette qui ne t'a frappé que par l'instinct le plus aveugle. Folie, s'acharner contre une chose muette me semble un blasphème. Et en fait, pour moi, tout Moby Dick est là. Moby Dick, c'est pas un objet de nature. C'est pas un objet de nature à exploiter. C'est clairement un être animé, et animé de mauvaises intentions, que les choses soient dites une fois pour toutes, mais un objet animé. Et Moby Dick est maître de lui-même, doué d'une intentionnalité, donc c'est un sujet. Et c'est là où l'affaire commence à devenir intéressante.
Effectivement, dans cette quête menée par le capitaine Ahab dans Moby Dick, c'est un exemple de la démesure humaine, vous venez d'en parler. Est-ce que cette démesure humaine, c'est quelque chose qui vous habite, qui vous traverse? Qu'est-ce que vous en avez fait dans votre pratique professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré?
À bien des égards, oui. Alors, prétendre que Moby Dick soit ma seule source d'inspiration serait évidemment un peu court. Mais clairement, pour tout le monde, Moby Dick, c'est l'histoire du capitaine Ahab et de la vengeance. Bon. Mais c'est aussi l'histoire d'un homme arrogant qui, par esprit de vengeance, va chercher à se mesurer à une nature qu'il dépasse. Et finalement, c'est une réflexion sur l'orgueil humain qui cherche à dominer et à détruire ce qu'il ne peut pas contrôler. Et d'une certaine façon, Moby Dick, c'est une métaphore de la relation des humains occidentaux modernes à la nature. Cette idée que la nature peut être réduite à des objets et que nous pouvons avoir une domination légitime sur ces objets. Mais qu'en fait, cette domination, elle est à la fois impossible et damnatrice. Elle condamne. Et pourquoi elle est damnatrice? Parce qu'en fait, Moby Dick n'est pas un objet. Et finalement, dans ma carrière et dans ma pratique scientifique, Moby Dick agit en quelque sorte comme un rappel. Ne réduis pas ton objet à n'être que ton objet de recherche. Admets qu'il puisse avoir un motu proprio, pour reprendre l'expression latine classique, qui inévitablement t'échappe. Et que la vérité à laquelle tu entends accéder ne sera jamais définitive ni totale. Que ton seul regard ne suffira jamais à appréhender totalement ton objet. Ce que je retiens de Moby Dick comme définition de ce qu'est mon métier, c'est cela. Eh bien, Moby Dick, oui, pour moi, c'est le fait que les scientifiques ont été éduqués dans un regard d'objectivation pure et exclusive. Et ce regard d'objectivation pure et exclusive est généralement, pour ne pas dire systématiquement, un objet réducteur. Et du coup, laisse échapper une part des objets de notre attention. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour les écologues et les agronomes.
Lorsque nous avons préparé cet entretien, vous m'avez dit que vous aviez lu Moby Dick plusieurs fois. Une première fois dans l'enfance, dans une version raccourcie. Vous l'avez relu beaucoup plus tard dans sa version intégrale. Moby Dick vous a alors dit quelque chose. Vous avez choisi un extrait, écoutons-le, et ensuite, vous m'en direz davantage.
Dans un chapitre qui s'appelle « La tête du cachalot, vue contrastée ».
Parmi les Léviathans in folio, le cachalot et la vraie baleine sont, sans conteste, les plus remarquables. Ce sont les seules baleines régulièrement chassées par l'homme. Pour le Nantequais, elles représentent les deux extrêmes de toutes les variétés connues. Puisque la différence extérieure entre elles se trouve principalement dans leur tête, que la tête de chacune d'elles est suspendue au flanc du Pécode et qu'il n'y a qu'à traverser le pont pour aller de l'une à l'autre, nous n'aurons jamais meilleure occasion que maintenant d'étudier pratiquement la cétologie. En premier lieu, le contraste général entre ces deux têtes est frappant. En toute conscience, toutes deux sont massives, mais il y a une certaine symétrie mathématique dans celle du cachalot, dont est fâcheusement dépourvue celle de la vraie baleine. La tête du cachalot a plus de caractère. Involontairement, lorsque vous la regardez, vous lui donnez la priorité à cause de la dignité qui y règne. Dans le cas présent, cette dignité était rehaussée par la couleur poivre et sel visible au sommet de sa tête et qui décelait un âge avancé et une large expérience. Bref, c'était là un échantillon de ce que les pêcheurs appellent une baleine à tête grise. Notons maintenant ce qu'il y a de moins dissemblable dans ses têtes, c'est-à-dire l'œil et l'oreille. Très en arrière et très bas sur le côté de la tête, près de l'angle de la mâchoire, chaque baleine montre, si on cherche bien, un œil sans cils qu'on pourrait prendre pour l'œil d'un jeune poulain, tant il est disproportionné avec la grandeur de la tête. Or, il est évident qu'avec une telle disposition de ses yeux sur le côté, la baleine ne peut jamais voir un objet qui se trouve face à elle, pas plus qu'elle n'en peut voir un placé juste en arrière. En un mot, la position des yeux de la baleine correspond à celle des oreilles d'un homme, et vous pouvez imaginer par vous-même ce qu'il en serait si vous deviez regarder les objets avec vos oreilles. Vous constateriez que vous ne pouvez commander plus de 30 degrés sur la ligne droite du champ de vision, et autant par derrière. Si votre plus grand ennemi s'avançait droit vers vous en plein jour, une dague à la main, vous ne pourriez pas plus le voir que s'il s'approchait en tapinois par derrière. En un mot, vous auriez deux dos, mais en même temps deux fronts, car qu'est-ce qui fait le front d'un homme sinon ses yeux ?
Alors, en quoi ce passage est-il important pour vous ? Qu'est-ce qu'il dit ?
En fait, c'est un passage parmi d'autres qui parle des baleines comme en parlerait un naturaliste. Et ce qu'il y a d'assez rigolo dans Moby Dick, c'est qu'on peut le considérer que cet ouvrage, qui prétend être un roman, est avant tout un traité de cétologie, de science des cétacés. Et effectivement, c'est une histoire naturelle de la baleine avec une analyse critique de la littérature scientifique, compte-rendu d'observation personnelle méthodique, etc. C'est, à bien des égards, ça pourrait être, on pourrait extraire de Moby Dick un article scientifique sur ce que nous savons des baleines en 1851. En même temps, si vous allez plus loin dans l'ouvrage, vous vous rendez compte que c'est presque un traité d'anthropologie des pêcheurs de baleines. Et ce traité d'anthropologie, il est le produit d'un travail d'anthropologue, d'un travail d'observation participante auquel s'est livré Melville, puisqu'il avait effectivement choisi d'aller pêcher la baleine. Et puis en même temps, c'est un roman. Et un roman avec des personnages, avec une histoire. Une histoire qui fait le ciment où ça semble, histoire naturelle, anthropologie, géographie. et qui fait de Moby Dick un livre pour moi unique, qui est un roman et plus qu'un roman, et une construction holiste d'un monde organisé par les baleines et par les pêcheurs. Et c'est ce qui fait pour moi que Moby Dick est un livre phare pour des scientifiques.
Traité d'histoire naturelle, traité d'anthropologie maritime, on pourrait également rajouter, vous l'avez également évoqué, traité de géographie. Moby Dick est un livre complexe qui peut s'attraper de diverses manières. Pour autant, il y a un récit, il y a une attente qui nous tient en haleine. À votre avis, quelle est la place de cette intrigue? Comment vous voyez ce récit dans Moby Dick? Comment, lorsqu'on est chercheur, dialogue-t-on avec ce type d'œuvre totale?
Moi, j'ai une conviction très profonde, c'est que pour faire de la recherche, et pour faire bien de la recherche, il faut d'abord bien enseigner. Et en fait, si je devais me définir, je dirais que je suis d'abord un enseignant, avant même que d'être un chercheur ou un expert patenté auprès d'établissements publics, des ministères, etc. Et pour bien enseigner, ce qui est important, c'est d'articuler les choses dans leur profondeur historique, dans leur profondeur temporelle, dans leur profondeur spatiale. Et ça, c'est particulièrement vrai pour des disciplines comme l'écologie et l'agronomie, ou l'agroécologie, qui est la discipline que j'enseigne. Et d'une certaine façon, j'aurais envie de dire que pour faire un cours qui soit vraiment bon, qui soit abouti et qui soit pleinement appropriable par des étudiants d'assez haut niveau, moi je travaille qu'avec des M2, je ne travaille pas des enfants des écoles, mais je pense que c'est pareil. En fait, il faut qu'un cours, ça ressemble un peu à Moby Dick. À Moby Dick, le livre, pas la baleine. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Faire ressembler un cours à Moby Dick, ça veut dire évidemment pas qu'on brode, qu'on dit n'importe quoi. Ça veut dire qu'on cherche à faire comprendre en révélant les liens entre les faits, les liens entre les différentes dimensions du sujet qu'on traite. Et ce que fait admirablement Melville pour moi, c'est finalement de tisser le traité d'anthropologie, le traité de cétologie, le traité de géographie dans les fils du roman, dans les fils de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de relativement essentiel. Moby Dick est un roman, et Moby Dick est un roman qui laisse place, à travers l'histoire d'Ahab, l'histoire de Moby Dick, mais l'histoire de l'ensemble des personnages. En fait, l'histoire, c'est le ciment qui fait que la construction holiste qui lie les baleines aux pêcheurs de baleines, à la mer, à l'état de la mer et des océans, à la géographie maritime, va se nouer. C'est le roman qui fait le lien entre ces dimensions et qui le rend, en tout cas, intelligible. Je ne sais pas si ça fait le lien, mais ça le rend compréhensible. Et c'est en ce sens-là que je dis, il faut faire court comme on écrirait Moby Dick.
Écoutons un troisième extrait.
Alors, le troisième extrait concerne le rôle de veilleur des marins. C'est dans un chapitre qui s'appelle « La Grand Une ». Et donc, ça commence, l'extrait que je vais lire commence page 228 de mon édition.
Mais si nous, baleiniers du Sud, nous ne sommes pas si bien installés là-haut que le capitaine Sleet et ses Groenlandais, ce désavantage est néanmoins compensé par la sérénité de ces mers séductrices sur lesquelles nous voguons ordinairement. Moi-même, j'avais l'habitude de grimper sans hâte le gréement, me reposant en haut pour bavarder avec Quickwag ou quelqu'un d'autre qui n'était pas de quart et que j'avais pu y trouver. Puis, je remontais encore un peu plus. Lançant une jambe paresseuse sur la vergue du hunier, je jetais un premier coup d'œil sur les pâturages aquatiques et finalement, je montais à mon ultime destination. J'avoue franchement que je ne veillais pas très bien. Comment l'aurais-je pu avec le problème de l'univers qui tournait en moi? Étant donné que j'étais entièrement livré à moi-même à une altitude faite pour engendrer la pensée, comment pouvais-je, sinon distraitement, tenir les obligations en usage sur tout baleinier, ouvrez l'œil et avertissez à chaque chose suspecte. Propriétaire de vaisseau de Nantucket, laissez-moi ici vous tenser sérieusement. Gardez-vous d'enrôler dans vos vigilantes pêcheries un gars au front maigre et à l'œil creux enclin à des méditations hors de saison et qui s'offre à embarquer avec le Fédon au lieu du Bauditch dans la tête. Je vous le répète, méfiez-vous d'un tel gars. Vos baleines doivent être vues avant d'être tuées. Ce jeune platonicien aux yeux vagues vous fera faire 10 fois le tour du monde sans que vous en soyez plus riche d'une demi-livre en huile de cachalot. Cet avertissement est nécessaire car, de nos jours, la chasse à la baleine sert de refuge à bien des jeunes garçons romantiques, mélancoliques et distraits qui, dégoûtés des soucis de la terre, sont à la recherche du sentiment dans le goudron et la graisse de baleine. Fréquemment, Child Harold se perche à la tête du mât d'un baleinier malchanceux et déconcerté et avec des intonations tristes crie « Roule, ô profond et sombre océan bleu, roule ! 10 000 chasseurs de graisse te parcourent en vain !» Très souvent, les capitaines de tels vaisseaux rappellent ces jeunes philosophes à l'ordre en leur reprochant de ne pas prendre assez d'intérêt dans le voyage et en suggérant à demi qu'ils ont si entièrement perdu de vue toute honorable ambition et tout espoir que dans le secret de leur cœur, ils souhaiteraient presque ne pas voir de baleine. Tout ceci en vain, car ces jeunes platoniciens ont la conviction que leur vue est défectueuse, qu'ils sont myopes et qu'alors il ne sert de rien de se fatiguer le nerf optique. Ils ont laissé leur lorgnette chez eux.
Alors ce passage montre encore autre chose. Là-haut, perché à la une, le marin est habité par autre chose que ce pourquoi il est là. Qu'est-ce que ce passage vous inspire ? Pourquoi l'avez-vous choisi ?
Alors, n'y voyez pas une illustration de ce qu'est le métier de chercheur complètement. Hein. On ne perd jamais d'attention notre objet, bien sûr. Pour autant, cette idée du veilleur romantique et mélancolique qui s'oublie dans sa quête de la compréhension de l'univers, elle me renvoie à une notion qui est pour moi assez essentielle dans mon métier de chercheur, qui est la notion de sérendipité. En fait, l'idée, quelque part, de se laisser prendre par ce qui traîne aux alentours de l'objet de son attention. Je pense qu'il est essentiel pour un chercheur de savoir laisser son esprit divaguer au bord de son sujet. Et j'aurais envie de dire au littoral de son sujet de recherche. Et au littoral de son sujet de recherche pour y écouter ce que disent les vagues sur la grève. Ne pas être obnubilé par son seul objet ponctuel de recherche, à un moment donné, est essentiel. Et essentiel pour quelque chose qui est peut-être trop souvent négligé quand on s'adresse à des jeunes chercheurs en encadrement doctoral ou autre, qui est qu'une condition indispensable d'une bonne recherche, c'est l'inspiration. Les 1% d'inspiration ou de génie dont parlait Einstein. C'est vrai que les 99% qui restent, ils sont indispensables. Et si vous ne vous consacrez pas à ces 99%, vous passez à côté de votre métier. Pour autant, ces 99%, sans les 1% d'inspiration, ils ne servent pas à grand-chose. Et finalement, une des particularités du métier de chercheur, c'est que ça reste un métier de création. Et finalement, cette création, c'est comme un peintre. C'est-à-dire un peintre qui n'a pas de technique, même quand bien même il entend l'oublier. En fait, ça ne fonctionne pas. Il ne suffit pas d'avoir une vision, une inspiration. Il faut être certes dans la technique. Mais si vous n'avez rien à peindre, vous ne peignez rien. Ou vous peignez des daubes. Et donc finalement, ce marin sur son mât qui oublie de regarder les baleines, il me fait penser à cette dimension du métier de chercheur. Et j'aime bien m'imaginer comme chercheur perdu sur ma vergue là-haut. Là. L'autre chose aussi, c'est que finalement, ce décentrement, c'est la base de l'effort de réflexivité sans lequel il n'y a pas de science qui vaille. Ce n'est pas seulement le doute cartésien, c'est je veux dire, quelque part remettre en cause les hypothèses fondatrices de son travail. Lire l'état de l'art de façon critique. Ne pas juste faire progresser la science faite. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas donné. Et je pense que J'ai l'habitude de dire que dans ma carrière, j'ai rencontré des chercheurs et des techniciens de recherche. N'y voyez aucun mépris pour les techniciens de recherche qui font leur taf, c'est bien. Mais des chercheurs qui finalement ne font que répéter d'autres travaux, sans jamais leur apporter autre chose que des modifications marginales ou des progrès marginaux. J'en ai rencontré beaucoup. Et puis vous avez ceux qui, parce qu'ils ont la même frénésie, la même volonté d'effort, de labourer en profondeur le sillon qu'ils tracent, mais parce qu'ils éclairent de ce 1% d'inspiration, sont capables de poursuivre, d'innover, d'inventer, de faire cet effort créatif, ceux-là, c'est toujours des chercheurs qui se posent des questions sur la façon dont ils ont travaillé, sur l'objet même de leur travail, qui en interrogent en permanence les limites, qui en interrogent le domaine de validité, et qui ne s'intéressent pas qu'aux points qui font la droite de corrélation, mais aux points aberrants. L'attention pour les points aberrants est pour moi quelque chose d'essentiel. Ça ne veut pas dire que la droite qui décrit une corrélation entre deux phénomènes soit nulle et non avenue. Bien sûr que non, c'est essentiel de la révéler. Pour autant, l'ayant révélée, nous devons toujours avoir le souci des points qui ne se calent pas avec cette droite. C'est là où Moby Dick, ça marche. Où finalement, il faut quelque part inventer le roman de sa propre recherche. Pas le rendre public, ce roman. Mais pour soi-même, il me semble que être chercheur, être dans l'engagement créatif de la recherche, c'est construire son propre roman de sa recherche. Et moi, je trouve que j'aimerais bien avoir écrit un Moby Dick.
Eh bien, merci. Ici s'achève notre périple de Nantucket ou mer du Sud, où se sont entremêlées expériences sensibles, conscience écologique et bonheur d'une pratique de la recherche qui se veut réflexive. Merci François Léger de vous être prêté à cet exercice, d'avoir partagé votre vision de la recherche et d'avoir ouvert des perspectives poétiques. Cela a été un joli moment. Merci à Bénédicte Barillet, Thomas Debeny de l'EHESS qui ont participé à l'organisation de cette émission, ainsi qu'à toute l'équipe de Transistoc, notre radio partenaire. Merci à l'équipe des Littoraux Poétiques, au CNRS, aux auditeurs pour leur écoute et à bien vite pour un nouveau feuilleton des Littoraux Poétiques.
Vous venez d'écouter Littoraux Poétiques, épisode 3. Autour de Moby Dick de Herman Melville. Une émission réalisée par Transistor avec Catherine Bohémard, ingénieure de recherche au CIRED, et François Léger, écologue et président du conseil scientifique au Conservatoire du Littoral. Littoraux Poétiques, une émission proposée par le groupe Poète du groupement de recherche Océan et Mer. Avec le concours du Centre national de la recherche scientifique, de l'École des hautes études en sciences sociales et de Transistor. Une émission à réécouter sur Transistor, sur la page podcast de l'EHESS ou sur le site GDR Océan et Mer.